Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. 5047, c'est le nombre de mineurs étrangers non accompagnés arrivés en Belgique en 2015. C'est trois fois plus qu'en 2014. Ces MENA, comme on les appelle, reçoivent en théorie un accueil adapté à leur âge, un suivi psychologique, une aide pour se reconstruire. Mais ça, c'est en théorie, car dans la pratique, on va le voir, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Pour en parler, nous recevons ce soir deux invités. Alors tout d'abord, Katia Fournier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous travaillez au service droits des jeunes de Bruxelles et plus particulièrement pour la plateforme Mineurs en Exil. Alors juste un mot sur le rôle de cette plateforme. Pouvez-nous dire à quoi elle sert ?
Alors c'est une plateforme qui regroupe une cinquantaine d'organisations qui travaillent sur les enfants en exil et on vise à améliorer structurellement l'accès à la protection, aux droits et à l'inclusion sociale des mineurs en exil.
Ok, alors à vos côtés, donc notre deuxième invité, Bernard De Vos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général aux droits de l'enfant. Alors, on va donc essayer de comprendre tout d'abord qui sont les MENA, donc les mineurs étrangers non accompagnés. Donc, parmi eux, on sait qu'il y a des profils très différents. Katia Fournier, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont ces profils ?
Tout d'abord, un des premiers profils, c'est vraiment les jeunes qui sont en besoin de protection internationale, c'est-à-dire des enfants qui viennent de pays en guerre, qui sont à risque de recrutement militaire, mariage forcé ou toute autre persécution spécifique aux enfants. On va avoir aussi des jeunes qui arrivent dans le cadre de traite des êtres humains, hein, donc que ce soit de la prostitution ou du travail forcé, esclavagisme moderne. On va aussi avoir des jeunes qui arrivent quelque part avec un mandat de la famille, de la communauté pour travailler, pour étudier, pour assurer un avenir meilleur. Donc voilà, il y a différents types de profils, des fois qui se mélangent un peu.
D'ailleurs, les MENA, c'est à la fois des personnes qui viennent de pays non européens, mais on a aussi des mineurs, enfin des MENA européens. Aujourd'hui, depuis 2014, il y a un statut aussi pour ces MENA européens qui viennent en tout cas de cette région d'Europe.
Oui, tout à fait. Il y a effectivement des enfants qui se retrouvent sans leurs parents ici, venant de certains pays de l'Union européenne, comme la Bulgarie ou la Roumanie. Souvent des jeunes avec un profil d'errance, ayant aussi vécu des violences familiales, institutionnelles, des fois aussi dans un cadre d'exploitation. Donc voilà, c'est aussi des jeunes à protéger, même s'ils viennent de l'Union européenne.
Alors, Bernard De Vos, on l'a dit en introduction, il y a eu un boom d'arrivée des MENA en 2015 suite à ce qu'on appelait la crise de la migration. Mais en même temps, c'est une réalité qui existe depuis toujours.
Depuis bien longtemps, on a connu 2010, notamment encore un gros afflux aussi qui avait connu des situations vraiment insupportables avec des mineurs qui étaient logés dans des hôtels qui n'avaient que le nom d'hôtels, qui étaient en fait de véritables bouges dans lesquelles les enfants étaient laissés à eux-mêmes avec un petit chèque repas, sans soutien psychologique, sans aide aucune. Je dirais, c'était tout à fait insupportable. Alors, je veux dire que depuis, il y a des choses qui ont évolué, mais la situation des mineurs étrangers est toujours détestable. Rien que si on prend simplement la question des tutelles, on sait que maintenant, effectivement, il est inscrit dans la loi que chaque mineur étranger, qu'il soit demandeur d'asile ou qu'il ne le soit pas, puisque c'est encore un petit détail important. Certains sont demandeurs d'asile et souhaitent effectivement faire des démarches officielles pour être reconnus. D'autres savent qu'ils n'ont aucune chance d'être reconnus parce que ce sont simplement, entre guillemets, des migrants économiques. Mais on sait que beaucoup de régions du monde n'offrent pas toujours les garanties de vivre décemment. Et donc, voilà, il y a des tuteurs normalement. Aujourd'hui, je ne sais pas, je regarde Katia qui connaît peut-être le chiffre, mais on parlait il n'y a pas tellement longtemps de 800, 900 jeunes qui n'ont toujours pas de tuteur. Donc, il y a encore une marge de progrès énorme à faire.
Alors, on va revenir effectivement sur la question des tuteurs. Et avant ça, peut-être pour que ce soit clair pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous retracer vraiment le parcours normal, donc en théorie, on va dire, selon la loi de 2002, sur les MENA, donc les mineurs étrangers non accompagnés. Quelles sont les différentes étapes de ce parcours quand ils arrivent en Belgique ?
Tout d'abord, il faut qu'on puisse détecter ou découvrir les MENA sur notre territoire, ce qui n'est pas du tout évident. Et donc, déjà, il faut partir du principe que les chiffres qu'on a sont des chiffres minimaux. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à trouver le système de protection. Ils sont signalés au service des tutelles, qui appartient à SPF, justice, et à partir de là, normalement, ils vont avoir un premier accueil dans ce qu'on appelle un centre d'observation et d'orientation. Et à ce moment-là aussi, normalement, on devrait leur désigner un tuteur, donc un représentant légal, qui va quelque part pas entièrement, mais compenser l'absence des parents. Et à partir de là, on va avoir un parcours d'accueil en plusieurs phases. Une phase d'observation et d'orientation, une phase de stabilisation, souvent en centre collectif, et puis une phase de mise en autonomie vers la fin.
Alors ce service de tutelle, donc c'est un tuteur vraiment désigné, c'est un système qui a été mis en place en 2002 suite à l'affaire Tabitha. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu en quoi consistait cette affaire et pourquoi on a mis en place ce système de tuteur ?
Alors en 2002, il y a une petite fille qui s'appelait Tabitha qui avait à l'âge de 5 ans été passée par Zaventem avec son oncle pour rejoindre sa maman qui était reconnue réfugiée au Canada. Et l'oncle n'avait pas les papiers sur lui qu'il fallait et donc on a renvoyé l'oncle et la petite est restée toute seule à l'âge de 5 ans, 2 mois dans un centre fermé toute seule sans aucune aide. Enfermée entre adultes dans une situation très tendue. Et puis, on l'a renvoyée à Kinshasa où personne ne l'attendait. Et ça a créé le scandale qui se méritait, on va dire ça comme ça. Ça a aussi conduit à une condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça a quelque part accéléré déjà une discussion qui était un peu sous-jacente sur la question de il faut créer un service qui puisse désigner des tuteurs pour ces mineurs non accompagnés.
Ok, donc alors le rôle vraiment de ce tuteur, c'est vraiment un rôle purement d'accompagnement. Enfin, c'est pas vraiment du parrainage, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour légalement accompagner le MENA dans ses différentes, dans les différentes étapes du processus.
Le tuteur, effectivement, c'est sa principale responsabilité, c'est suivre tout le processus depuis l'arrivée du mineur sur le territoire, depuis son signalement jusqu'à la décision et même l'accompagnement de la suite. Donc c'est vraiment une pièce essentielle dans la protection de l'enfant. C'est lui qui va informer le jeune des droits dont il peut bénéficier. C'est lui qui va l'accompagner dans les démarches officielles. C'est lui qui va se mettre à la recherche d'une école. C'est lui qui va se remettre à la recherche d'un lieu d'accueil s'il n'est pas là. Donc c'est vraiment une pièce essentielle. Alors il y a des tuteurs qui, on les appelle les tuteurs professionnels, mais bon, voilà, ce sont des tuteurs qui sont affiliés à des associations, des ONG qui travaillent ces questions-là. Et puis il y a aussi monsieur et madame tout le monde qui peut être tuteur et qui peut investir du temps, donner du temps de manière citoyenne. Alors il y a des avantages et inconvénients dans les deux formules, mais en tout cas ce qui est important c'est de rappeler que chaque enfant doit pouvoir en bénéficier et qu'aujourd'hui c'est toujours pas le cas.
Oui, parce que non seulement il y a des enfants des mineurs étrangers non accompagnés qui n'ont pas encore de tuteur, mais on sait que au plus gros de l'hiver il fallait entre 2-3 mois pour avoir un tuteur, pour qu'on désigne un tuteur alors que normalement ça doit se faire directement.
Oui, et c'est encore le cas aujourd'hui puisqu'il y a encore des mineurs qui n'en ont pas et donc ce qu'on n'a pas encore dit non plus, mais c'est que quand on parlait d'un mineur étranger non accompagné il y a quelques années, on imaginait un mec, souvent, c'est beaucoup de garçons, relativement baraqués, qui a déjà bourlingué, 16, 17 ans, qui a parfois bourlingué longtemps pour arriver jusque chez nous, qui a travaillé en cours de route, etc. Aujourd'hui, quand on dit un MENA, c'est parfois des gamins de 8 ans, des gamines de 8 ans, des enfants très jeunes, et donc pour lequel le besoin de protection est vraiment établi directement. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant, mais c'est encore plus réel aujourd'hui parce qu'effectivement l'âge des mineurs étrangers a fortement diminué et qu'on se retrouve avec des mineurs étrangers très 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 jeunes, des enfants véritablement. Et donc imaginez, alors je ne veux pas dire que évidemment ces enfants-là bénéficient, je veux dire on les priorise évidemment et donc on ne les laisse pas sans aide, mais c'est quand même un souci vraiment réel.
Alors, donc, il y a beaucoup de MENA qui n'ont pas de tuteurs. Pourquoi ? Par manque de tuteurs ou par lenteur du système ?
Un peu de tout, hein. Un peu de tout,
je
te laisse dire.
Je pense qu'à la fois, il y a un manque de tuteurs. À la fois, il y a aussi beaucoup de tuteurs qui prennent qu'un certain nombre de tutelles. Donc, même si on a plus de tuteurs qu'avant, ça ne résorbe pas l'arriéré. Et puis, je pense qu'il y a aussi une question de rapidité de désignation parce qu'il y a des tuteurs qui seraient capables d'en prendre plus, mais qui ne reçoivent pas de désignation de jeunes. Donc, je pense qu'à la fois, c'est une capacité humaine et financière au niveau du service des tutelles, à la fois avoir le personnel pour désigner et à la fois pour pouvoir engager de nouveaux tuteurs.
Et là, je rajoute encore qu'évidemment, il y a la question de la formation. Ces tuteurs, qu'ils soient, entre guillemets, citoyens ou professionnels engagés, c'est très important qu'ils soient formés. Parce que le pire, évidemment, c'est un tuteur qui ne sait pas ce qu'il doit faire ou qui fait et qui prend justement des dispositions qui sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, c'est très important. Et donc, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on travaille souvent au coup par coup. Donc, on sait bien, enfin, je veux dire, tous ceux qui sont suffisamment informés des réalités géopolitiques savent qu'on aura encore un afflux. Sans doute, personne ne peut dire exactement quand, mais on aura de nouveau des mineurs et des majeurs aussi qui viendront frapper à la porte de l'Europe. C'était écrit, je veux dire. Et donc, quand on voit les décisions au niveau du secrétaire d'État de diminuer drastiquement le nombre de places d'accueil, il va falloir les recréer de nouveau dans l'urgence. C'est pareil, c'est maintenant qu'on est en situation où justement on n'a pas un afflux massif qu'on devrait travailler sur la formation, sur l'engagement de nouveaux tuteurs pour faire face à une situation qui se dessine. Mais qu'on préfère oblitérer, qu'on essaie de se fermer les yeux en disant bah, on peut souffler un peu. Non, justement, c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'il faut investir.
Oui, c'est vrai que le secrétaire d'État donc, à l'asile, Théo Franken, a annoncé il y a quelques jours qu'il allait fermer 10 000 places d'accueil. Donc on ne sait pas si ça concerne spécifiquement les MENA, mais en tout cas 10 000 places d'accueil, dont certaines, j'imagine, toucher les MENA. Alors que vous me disiez, Katia Fournier, avant l'enregistrement de l'émission, qu'il y a encore 800 000 personnes qui attendent en Libye pour passer la Méditerranée et que parmi ces 800 000 personnes, il y a la moitié qui sont des mineurs. Alors pas nécessairement non accompagnés, mais en tout cas, il y a une grosse partie de mineurs qui vont arriver dans les prochains jours, semaines, mois, dans nos pays.
Tout à fait. Je pense que la situation dans les pays d'origine n'a pas changé. Donc il y a toujours autant de raisons pour des MENA de fuir leur pays. À la limite, il y a certaines régions du monde qui sont en train de dégénérer encore plus, si on prend la Corne de l'Afrique, mais même la RDC. Et donc, la situation en Afghanistan ne change pas. Elle change, mais se détériore chaque semaine. Et donc, on voit des nouvelles routes qui se créent, effectivement, par l'Ukraine, par la Libye, avec énormément de personnes en attente. Notamment, on sait aussi qu'en Libye, il y a toute une proportion de jeunes filles nigérianes dans des réseaux de prostitution qui vont être probablement embarquées vers l'Europe. Donc, il y a vraiment un enjeu à anticiper. Et la vision sur le court terme au niveau de la protection de l'enfance, c'est quelque chose de vraiment très dangereux.
Alors, on pointait un des problèmes, donc c'est la question des tuteurs. Un autre problème, c'est aussi que, par exemple, dans le pré-accueil, pour ceux qui demandent l'asile, certains vont être dans des structures de pré-accueil, peut-être avec des adultes. Le fait que des mineurs étrangers non accompagnés soient parfois accueillis dans des structures où il y a des adultes, ça, j'imagine, ça pose aussi, ça pose aussi question, ça pose problème.
Alors, pour l'instant, il n'y a plus vraiment de situation de pré-accueil. Bien qu'on a toujours un système qui permette de réactiver ce système de pré-accueil. Ce qu'on trouve bien entendu dommage parce que, quelque part, tout notre système a été basé sur une protection immédiate et adaptée pour les mineurs. Deuxièmement, bah effectivement, on voit à la fois dans le pré-accueil, mais aussi même des fois de manière structurelle, des MENA dans des structures adultes où il y a une proximité avec les adultes et ça pose un certain nombre de questions au niveau... Et simplement au niveau du rythme de vie, comment aller à l'école si les adultes dans la chambre bavardent jusqu'à 4 heures du matin, mais aussi des questions beaucoup plus sérieuses de comment est-ce qu'on évite éventuellement des dangers provoqués par des adultes qui pourraient s'en prendre à des mineurs.
Avec aussi dans ces jeunes peut-être des jeunes qui n'ont pas réussi à prouver qu'ils étaient mineurs parce que évidemment s'ils n'ont pas de preuves formelles qu'ils sont mineurs, il y a par exemple des tests médicaux aujourd'hui, on sait qu'il y a des tests osseux notamment qui font polémique. Pour vous Bernard DeVos, ces tests il faut les maintenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour effectivement ces jeunes qui n'ont pas de papier prouvant qu'ils sont mineurs mais qui disent qu'ils sont mineurs?
Moi, je plaide depuis le début de mon mandat pour une réflexion profonde sur cette question des tests, pour plusieurs raisons. D'abord, est-il légitime, est-il normal de soumettre à des tests médicaux des enfants avec des conséquences que ça peut avoir, des enfants qui sont irradiés pour connaître leur âge, c'est complètement surréaliste. D'abord, la première chose, je pense qu'on doit faire confiance d'abord dans les documents quand ils existent, un peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire, il y a des mineurs qui sont soumis à des tests osseux alors qu'ils ont des documents qui proviennent d'ambassades, qui proviennent de pays dans lesquels il y a une administration qui fonctionne plus ou moins correctement. Et puis pour le reste, indépendamment de ça, on sait que ces tests ont une fiabilité extrêmement faible. Alors on parle parfois d'un an, deux ans, soit supérieur, soit inférieur à l'âge réel. Mais évidemment, on se base sur ces tests se basent sur des références qui ne sont pas du tout actualisées, des hommes blancs qui datent, je ne connais pas la
1935.
C'est un homme blanc. Donc on compare la radiographie d'un jeune qui vient tout droit de son Afrique natale et qui a une morphologie solidement plus grande. Même tous les enfants ont 5 ou 10 cm en plus qu'ils avaient avant, et on compare avec un individu blanc de 1930 et des. Donc c'est complètement surréaliste, et donc vraiment je pense qu'il y a une réflexion profonde à avoir. Il y a d'autres techniques d'investigation qui permettraient d'établir avec autant de fiabilité, puisque la fiabilité est terriblement faible. On parle 2 ans au-dessus, 2 ans en dessous, mais on a déjà vu des situations où c'était bien pire que ça. Donc voilà, donc je crois vraiment qu'il y a une réflexion. C'est un manque d'unité. Moi j'avoue que je ne comprends pas toujours les médecins qui acceptent de jouer ce jeu-là, qui est un jeu extrêmement... Alors je dirais aussi, pour terminer rapidement, pour moi, c'est qu'au niveau européen, au sein de l'ENOC, qui est le réseau européen des ombudsmen pour enfants, la question se pose de manière extrêmement claire. On a déjà eu plusieurs débats et je pense qu'on aura prochainement une option du réseau au niveau européen, parce que c'est évidemment pas que chez nous que ça se passe.
Oui, s'il y a d'autres pays, j'imagine qu'ils pratiquent ça.
Il y a d'autres pays qui le font avec une radio, deux radios, il y a d'autres techniques ailleurs, mais il y a des pays qui refusent et qui font différemment.
Et ça veut dire aussi que dès le départ, le jeune est un peu considéré comme suspect. C'est-à-dire qu'on lui demande de tout raconter. Alors déjà pour un adulte, ça doit être compliqué, parce qu'ils ont souvent des parcours de vie quand même très compliqués, très difficiles. Et donc on lui demande de raconter en détail, avec des mots très précis, et on le considère d'office déjà comme suspect.
Comme premier accueil, c'est effectivement lamentable. C'est évident que la première chose qu'on vous demande, c'est de vous soumettre à un test médical. Vous n'avez sans doute parfois pas vu même une salle de radiologie dans votre vie. Vous vous trouvez à l'hôpital avec des médecins, et effectivement, on fait raconter. Je crois effectivement que c'est terriblement traumatisant, et on devrait l'éviter aux enfants. On devrait.
Alors, il y a plusieurs témoignages justement de Mena dans différents ouvrages, dans différents articles, et c'est vrai que cette violence institutionnelle est souvent pointée par les jeunes. Ils le vivent assez mal.
Mais c'est un parcours de violence qui s'accumule. Hein. C'est violence dans le pays d'origine, violence certainement sur les trajets migratoires. Et quelque part, je pense que ces enfants arrivent avec un espoir d'être finalement en sécurité, quelque part, quoi, pouvoir légèrement recréer un cocon où ils vont se sentir en sécurité. Et puis la première chose, généralement, qu'on leur dit, c'est « on ne te croit pas, on remet en cause qui tu es, et quelque part, on remet en cause la date de naissance à laquelle ta maman t'a mis au monde. » Pour des enfants qui n'ont justement plus leurs parents, c'est d'une violence symbolique, et puis c'est quelque chose, cette méfiance continue à tout niveau. C'est-à-dire qu'on va demander de raconter, effectivement, avec chronologie, pour un jeune qui est par exemple non alphabétisé, mettre une chronologie, un jour, une semaine, si on n'a pas appris ce que c'est d'une complexité immense. Et on n'arrive pas à raconter, donc on n'est pas crédible. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui est compliqué, d'autant plus que c'est des jeunes qui ont déjà une méfiance de l'adulte et des institutions. Hein, quand on voit au niveau des parcours migratoires, il y en a énormément qui ont vu la famille tuée par les autorités, qui des fois aussi au niveau des abus sexuels, filles, garçons, sont essentiellement commis par soldats ou policiers. Et donc déjà d'oser demander de l'aide à une institution, c'est un énorme pas. Et si alors la première réponse de l'institution va dire on va voir si on peut éviter de te protéger, c'est d'une violence inouïe.
Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on ne redira jamais assez que la qualité du premier accueil, elle va conditionner évidemment la manière dont le jeune va considérer la société dans laquelle il s'insère. C'est évident que accueillir de manière correcte des enfants, c'est se garantir des enfants qui auront sans doute à cœur de respecter la société qui les accueille de manière digne. Et faire le contraire, ce qu'on a dû dénoncer à de multiples reprises, c'est vraiment faire un très mauvais pari sur l'avenir de ces enfants. Ils resteront, hein, donc ils ne sont pas expulsables. De toute façon, les ordres de reconduire, s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un statut légal, les ordres de conduire ne sont pas exécutés. Et donc ils resteront. Et puis même après, quand ils deviendront entre guillemets illégaux, quand ils auront passé les 18 ans et que là l'ordre de conduire, l'ordre de quitter le territoire sera réel, bah ils resteront. Je veux dire, ils n'ont pas de raison de partir. Et là, évidemment, c'est évident que ces souvenirs emmagasinés, ces violences institutionnelles, se reporteront sans doute sur la société.
Alors, on va continuer à parler hein, de difficultés que rencontrent aujourd'hui donc les MENA, les mineurs étrangers non accompagnés. Je vous propose juste avant de faire une petite pause musicale avec une chanson qui a déjà plus de 15 ans, mais vous devriez vite reconnaître ses rythmes reggae latino. C'est Manu Chao avec Clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino.
C'était donc Manu Chao avec Clandestino. Vous êtes toujours dans Libre Ensemble et ce soir, on parle des MENA, les mineurs étrangers non accompagnés, avec Bernard DeVos, délégué général aux droits de l'enfant, et Katia Fournier de la plateforme Mineurs en exil. Alors, est-ce qu'on a une idée justement de des jeunes qui sortent du système, qui finalement soit vont ne vont pas faire ne vont pas jusqu'au bout de la procédure ou ne font jamais les demandes d'asile et finalement errent se retrouvent dans la rue, ne rentrent dans aucun système. Il y en a beaucoup ou pas ?
Oui, il y en a beaucoup. Il y en a évidemment beaucoup. Je veux dire, c'est certain que tous les jeunes ne vont pas prendre le risque, évidemment, d'être déboutés dans leurs demandes s'ils savent bien qu'ils sont, que les motifs pour lesquels ils sont arrivés en Belgique ne sont pas reconnaissables. C'est-à-dire qu'on peut difficilement imaginer, évidemment, ce que ça peut représenter pour un jeune de se dire, OK, de toute façon, je viens parce que vivre chez moi, c'est plus possible pour des raisons simplement de survie parfois. On a quand même, il faut pas oublier que c'est pas simplement la guerre qui compromet des vies, la famine. J'étais encore hier à une réunion parisienne autour de la question de la radicalisation avec beaucoup de participants d'experts qui venaient du continent africain qui disaient que la question de l'eau, qu'on pense de notre côté, du bon côté du monde, entre guillemets, confortablement installé, on en a trop pour le moment d'ailleurs, mais je veux dire, franchement, là-bas, c'est un véritable souci. C'est même pas la question de l'eau potable, c'est la question de l'eau pour irriguer les cultures, de l'eau pour. Et donc, on a des enfants, évidemment, qui arrivent ici en se disant, mais on n'a pas d'autre solution que de partir. Katia dit tout à l'heure que certains sont envoyés, ils ont une responsabilité aussi à l'égard de leur famille qui s'est cotisée, qui s'est endettée pour arriver. Et donc, ce genre de mineurs-là, il y en a beaucoup, et ils errent, ils cherchent à gauche et à droite, et ce sont malheureusement les premières victimes de la traite des êtres humains.
Mais est-ce que dans ce cas-là, la question du retour et du renvoi de ces jeunes dans leur pays d'origine ne doit pas quand même être posée? C'est-à-dire qu'on se dit qu'effectivement, ils ont été envoyés pour des raisons économiques, que finalement, ils ne veulent pas être là, ils ont une famille qui est toujours là et qui est toujours présente dans leur pays d'origine. Est-ce que donc la question du retour, qui est quand même tabou, mais est-ce qu'elle ne doit pas quand même être posée à ce niveau-là?
Non, pour moi, elle n'est pas taboue et je suis tout à fait d'accord d'en débattre. C'est évident que pour un mineur qui n'a plus d'inscription familiale dans son pays, il n'est pas question qu'on imagine un retour. Pour des mineurs qui viennent effectivement de pays qui connaissent des grandes détresses économiques et qui ont encore leurs parents, je trouve que la question peut être discutée. La seule chose qui m'importe, c'est de savoir que si on le renvoie, entre guillemets, chez lui, ça doit se faire dans des conditions de dignité absolue plus, et certainement en faisant en sorte que nous investissions auprès de sa famille d'origine pour faire en sorte, effectivement, que son avenir soit meilleur que celui qu'il a quitté. Si on se dit, il a une famille, on le remballe là-bas, il n'y a pas de raison. Or, il faut quand même constater que, de manière générale, le soutien à la coopération au développement de la Belgique n'a jamais été aussi faible, que des projets novateurs en matière, justement, de développement économique de pays avec lesquels on a pourtant des partenariats économiques n'ont jamais été aussi faibles. Donc, vraiment, là, il y a une responsabilité importante. Et donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, moi, en tant que garant de l'application de la Convention des droits de l'enfant pour la Belgique francophone, je suis mal à l'aise, effectivement, dans le sens où le droit à vivre en famille est un droit fondateur de la Convention. Quand une famille existe et qu'elle est aimante et qu'elle est à la hauteur des exigences éducatives, il n'y a pas de raison, effectivement, de ne pas en tenir compte. Mais, je le répète, si ces mineurs arrivent chez nous, c'est parce qu'ils connaissent des conditions de vie socio-économiques insupportables dans leur pays. Et donc, il faut vraiment faire la balance entre les deux.
Oui, on ne peut pas se permettre de les renvoyer dans des conditions...
Il n'en est pas question.
Des conditions qui sont identiques que celles dans lesquelles ils sont partis.
Exact.
Oui, tout à fait.
Alors, au niveau pratique, si, par exemple, certains de nos auditeurs voulaient s'engager plus activement dans l'accueil des MENA, on a déjà parlé du rôle des tuteurs, par exemple, ça, si certains sont intéressés, il faut suivre une formation. Comment ça se passe un peu concrètement, Katia Fournier?
Alors, il faut envoyer CV, lettre de motivation et un certificat de modèle 2. Au service des tutelles qui dépend du SPF Justice. Donc, vous tapez ça sur Google, vous trouvez tout ce qu'il faut. Et sur base de ça, il y aura une séance d'info. Si les gens sont toujours motivés, il y aura un entretien. Et puis, s'ils sont agréés, à partir de là, ils suivront une formation pour justement pouvoir exercer en tant que tuteur.
Une formation dont on a parlé, effectivement, importante pour assurer ce rôle.
Après,
mais oui, il y a d'autres possibilités éventuellement, parce qu'on sait que le rôle du tuteur, voilà, c'est un rôle très légal,
oui.
Mais pour ces jeunes, ça peut être aussi utile d'avoir peut-être une forme de parrainage, des gens qui les aident à s'insérer dans la société, à comprendre la société, à se sentir mieux dans la société.
Oui. Tout à fait, je pense que les familles de parrainage, c'est un besoin réel. Je pense que c'est des jeunes qui essayent aussi d'exister autrement que par justement cette qualité, ce qualificatif MENA. Ils veulent exister comme Khaled, comme Ahmed, comme Mohamed, comme Yasmine. Et donc il faut avoir des familles de parrainage justement qui permettent la rencontre humaine et qui permettent justement de découvrir les jeunes en dehors de toutes les démarches administratives qu'il faut réaliser autour du jeune, mais de voir, quel est le projet, quelle est la vie qu'ils projettent. Et puis, il y a une curiosité énorme de ces jeunes, tout simplement, de se dire, un repas en famille en Belgique, ça se passe comment? Ça peut paraître très bête, mais c'est une question fondamentale. Et je pense qu'il y a un besoin de se dire, un pique-nique au parc, c'est énorme pour un jeune comme ça, de pouvoir partager justement les petits détails du quotidien, mais qui font énormément de bien, tandis que tous les acteurs autour de ces MENA qui ont justement plus de famille, vont s'activer sur des démarches, sur de l'administratif, sur du social, sur du il faut faire, il y a des deadlines. Mais donc, la relation humaine, voilà.
Il y a aussi la possibilité d'être famille d'accueil, outre la famille de parrainage qui peut soutenir ponctuellement, qui peut ouvrir des horizons. Il y a aussi effectivement la possibilité d'être famille d'accueil. Il suffit d'aller effectivement, je ne connais pas les adresses, mais ça se trouve facilement. Et donc là, c'est une prise en charge au long cours d'un enfant. Et donc effectivement, je parlais tout à l'heure du fait que les mineurs étrangers qu'on rencontre ont quand même fort rajeuni par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et donc notamment pour les plus petits, c'est super important d'avoir un milieu familial. Et je crois que, et là aussi, ça demande quand même un certain engagement et donc une information correcte avant de se lancer dans l'aventure, une formation aussi, et puis avoir accepté le soutien d'un service spécialisé, parce qu'évidemment on sait que ça pose des questions quand même, et c'est un engagement qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais c'est ouvert et c'est vraiment très très important. Donc je ne veux surtout pas décourager des familles qui seraient intéressées de proposer ce type d'accueil.
D'accord. Alors peut-être un mot, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais juste un mot de la fin, c'est pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour ces mineurs étrangers non accompagnés? Quel serait vraiment le point à améliorer chacun?
Tout. Non, tout peut être encore
amélioré.
Non, mais tout peut être amélioré. Moi, je dirais que ce qui est vraiment la question, notamment des mineurs étrangers non accompagnés, non demandeurs d'asile, étant une question qu'on a eu tendance à mettre de côté parce qu'on a été justement pris dans un afflux de mineurs qui pouvaient légitimement demander l'asile parce qu'ils venaient de situations de guerre, etc. Mais je pense vraiment que la situation des non demandeurs d'asile doit être revue et doit être travaillée.
Katia Fournier, juste un mot sur une chose à améliorer. crucial.
Un premier accueil adapté qui privilégie leur statut d'enfant par rapport à un migrant et proposer un cadre de confiance face à la méfiance institutionnelle qu'on leur propose.
Mais merci en tout cas à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce sujet. Alors je donne juste deux adresses e-mail avant de nous quitter. Donc c'est www.mineurenexil.be, donc www.mineurenexil.be, c'est donc la plateforme dont vous occupez Katia Fournier, et le site internet du délégué général aux droits de l'enfant, donc Bernard DeVos, www.dgde.cfwb.be. Ça, c'est plus compliqué.
On s'excuse.
Délégué général
bien,
aux droits de l'enfant, point, c'est communauté française wallonie.
On aimerait bien avoir droitsdelenfant.be, mais c'est très compliqué.
Voilà,
peut-être
en
qu'un jour. Peut-être
sinon,
qu'un jour.
Vous tapez sur Google, ça marche toujours. Merci en tout cas de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.